Non, ne me touchez pas, laissez-moi. Non, lâchez-moi, lâchez-moi, j'ai des droits. Droit d'asile.
Oh, Robin.
Ah, ben il était temps. C'est quoi ce bordel?
Est-ce que tu te rends compte à quel point la situation est grave?
Ah non, 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 tu vas pas t'y mettre toi aussi.
Tu as trahi le podcast.
Eh, hey, j'ai rien fait moi. Faudrait voir à pas balancer des accusations en l'air comme ça.
Ah oui? Et comment expliques-tu ceci?
Vous êtes bien dans 2 FPS, et aujourd'hui, on vous parle du Pôle Express.
Ah, putain. C'est l'intelligence artificielle.
Hein? Quoi?
C'est une intelligence artificielle, j'ai été piégé, quoi.
Ben voyons.
Je te jure, demande à Olivier et Mélanie.
Ah, il est trop tard pour ça, d'accord? Les abonnés sont déjà réunis pour ton procès.
Pardon? Non, wow, wow, attends, attends, ça va pas un peu loin, là?
Non, mais c'est avec les réseaux sociaux, là. Bon, j'avoue, ça a dégénéré.
Mais attends, mais j'ai jamais fait cet épisode. Tu l'as mis en veto. Jamais, au grand jamais, je n'aurais... Ok. Tu sais quoi? On fait un film que tu choisis, aucun veto.
Genre, Happy Feet?
Je préfère la prison.
Oh, je sais, je sais. Vous êtes bien dans 12 FPS et aujourd'hui, on vous parle de Sinbad, la légende des 7 mers.
Ah, le con.
Hey, rapido, where is Mo? T'entends ce rythme endiablé? Ça fait danser les races.
Bonjour et bienvenue dans 12 FPS, le podcast qui parle d'animation animée par des animateurs. Aujourd'hui, on vous parle de Sinbad, la légende des 7 mers, film d'animation traditionnel et un petit peu en 3D, sorti en 2003, réalisé par Tim Johnson, qui a réalisé Fourmis, Nos voisins les hommes, et Patrick Gilmore pour les studios DreamWorks. Au doublage en VF, nous avons évidemment Patrick Bruel, qui double Sinbad, Monica Bellucci, qui double Marina, Emmanuel Bondeville, qui double Eris, Damien Ferrette pour Proteus, et le regretté Marc Alfos, qui double Kay. Là, avec moi pour parler du film aujourd'hui, Robin.
Bonjour.
Ça va?
Ouais, ça sent vachement les années 90. Ce
ouais, c'est clair, putain. Le résumé du film, c'est moi qui m'y colle.
C'est quoi le résumé du film?
Le résumé du film. Sinbad est un pirate marin, aventurier, grec, visiblement, dans le film.
Ouais.
Et qui décide de voler le livre de la paix, artefact magique un
que
peu...
Quand il est fermé, McAfee. C'est pas la paix, mais quand il est ouvert, c'est la
ça,
paix.
C'est un peu ça. Et en chemin, il rencontre la déesse Eris qui lui propose un marché en lui disant de voler le livre. Sinbad accepte d'abord, puis renonce à voler le livre. Mais Eris le vole quand même en se faisant passer pour Sinbad. Sinbad doit le récupérer, s'ensuit un plan machiavélique de la déesse qui va le piéger et bref, tout un tas d'aventures à travers les fameuses 7 mers, même s'il n'y en a pas vraiment 7.
Oui, ça aussi, c'est... Bon. Il y a plein de choses à dire.
Voilà. L'autre avis sur le film.
Bonjour tout le monde, vous avez aimé le spectacle?
Qu'est-ce que t'as pensé de ce film?
J'ai pas aimé.
Ah ouais?
Bah, c'est pas que j'ai pas aimé, je me suis fait chier quand même.
Ouais.
Je pense que... Je pense que je l'ai découvert tard. En fait, je l'avais déjà vu une fois il y a 8 ans, peut-être, je crois.
Oui.
Mais je l'avais vu en travaillant sur un projet d'école.
Ouais, donc d'un œil.
D'un œil. Et je m'étais dit à l'époque, hey, c'est pas mal en film de fond. mais en film où tu le regardes vraiment et tu regardes ce qui se passe, franchement, je sais pas, il y a beaucoup de péripéties les unes après les autres où... Enfin, tu te fais un peu chier. Mais après, il y a quand même des bonnes trouvailles, il y a quand même de la bonne action, il y a de la bonne animation. Mais je sais pas, il manquait le truc pour que moi, en tout cas, je sois engagé dans le film et que j'ai envie de... Je sais pas, il manquait un truc pour moi, la petite flamme qui fait que, oh my god, je suis vraiment super embarqué dans le film. Et il manque un putain de troisième acte à ce film. Hein. Quand on arrive à la fin et qu'il revient à Syracuse, je dis, ok, là, ça part. Là, il y a le troisième acte, là, il y a l'affrontement avec... Non. Non, non, c'est bon, il a résolu l'énigme. C'est bon, elle s'est fait piéger. Générique. Ah, d'accord. Pour moi, j'étais là, je fais ok, il manque un acte, il manque un truc. Et je sais pas, il y a peut-être tout l'argent qui était passé dans les autres rebondissements avant, j'en sais rien. Ouais, ouais,
c'est ça. On reparlera de la production de ce film.
Ouais, ouais, ouais. Mais ouais, non, pour moi, c'est. Ouais. Vraiment pas fou. Enfin, vraiment, ouais. je le re-regarderai pas, quoi. Et toi?
Bah moi, c'est un film que j'ai vu maintes fois pendant mon enfance, donc j'ai quand même un petit attachement nostalgique. Le revoir, ça a mis un petit coup là-dedans quand même, hein, parce que la 3D en a pris un gros coup dans la gueule, c'est salement
ouais, ça,
moche.
C'est vrai, ouais.
Y a des trucs qui sont vraiment cool, les cheveux d'Eris en animation là sont incroyables.
L'animation d'Eris.
Ah ouais, c'est formidable, c'est juste un des meilleurs trucs du film.
Par contre, strabisme.
Ouais, de nombreuses fois, ouais.
Mais elle, des fois, elle le regarde pas dans les yeux,
mais
ou elle a les yeux qui divergent.
Ouais, c'est vraiment des trucs à la DreamWorks, des fois, là, où ils ont un peu rushé certains trucs.
Ouais, mais bon, les directions de regard, c'est tellement important d'animation, et là, à chaque fois, ça me
ouais,
ça
y
me
y
sortait du film,
choses.
Quand je le vois, je fais, non, mais qu'elle le regarde pas.
Mais
là,
ça, même à l'époque, c'était un truc où ça nous faisait un peu marrer, tu vois, donc...
Ouais.
Voilà, moi l'écriture, le troisième acte me gêne moins parce que je trouve, enfin je suis d'accord avec toi, il manque un truc, mais c'est parce que le film a été raccourci, je pense, mais je trouve que le twist de fin dont je parlerai dans mon extrait est excellent, parce que même en connaissant le scénario, en fait tout le long du film je m'y attendais pas, et je comprenais pas qu'est-ce qui allait se passer, enfin je me rappelais pas ce qui allait se passer, et en fait quand elle explique son plan à la fin, j'étais là, ah putain oui c'est vrai, du coup ça j'ai trouvé ça cool. J'ai trouvé les doublages excellents aussi en français. Ça marche très bien. Les dialogues sont pas très bien écrits, par contre.
Non.
C'est vraiment genre, c'est vraiment un film qui est marqué dans son époque, c'est-à-dire les années 2000, et qui est une époque. Je suis désolé pour les nostalgiques de cette époque que on peut oublier. On peut passer à la trappe. C'est pas grave.
Bah ça dépend de quoi. Ça dépend de quel film.
Ouais, bah un bon paquet de trucs, on peut les... Voilà.
J'y reviendrai après, mais moi je vais te dire pourquoi je l'ai loupé, Sinbad. Mais okay. Je trouve que Patrick Bruel marche bien.
Ouais. Même Monica Bellucci, moi je trouvais que ça marche bien pour les deux personnages là.
Le truc que je trouve incroyable dans ce film, c'est les musiques. Les musiques sont vraiment bonnes.
Oui.
Monica Bellucci marche bien.
Qui à la base devait être faite par Hans Zimmer, mais en fait il a pas pu. Et c'est l'autre, le compositeur, là, dont j'ai oublié le nom, qui l'a fait. Et il s'en sort vraiment bien.
Bah, c'est celui qui a fait les musiques de Shrek et de plein d'autres films là. De Prince d'Égypte et tout quoi.
Donc ouais, il y a plein aussi de petites blagues, mais pareil, marquées dans leur époque.
Très sexuel comme film.
Très, 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 très tendancieux. Il y a beaucoup, beaucoup de trucs, on n'en reparlera pas dans un extrait, mais il y a un moment où Sinbad, il fait un espèce de... Quand Marina, elle arrive sur le bateau, il fait un dart, down, up, puis genre qui est extrêmement discret, et je l'avais jamais vu, et j'ai fait, mais comment c'est passé? Comment c'est passé à l'approval, ça?
Si, bien sûr que c'est passé,
mais
et
c'est
quand tu vois ce qu'il y a eu sur Eldorado...
Oui, voilà. Mais Eldorado, tu vois, tu... Il y a une ambiguïté où tu dis non, mais ils peuvent toujours se dire bon, ok, ils peuvent justifier le truc. Là, il y a c'est pas caché. C'est vraiment.
Oui. Là où tu vois Eldorado, je me suis éclaté.
Ouais.
Et les intégrations 3D, 2D marchaient beaucoup mieux.
Ouais, beaucoup mieux. Beaucoup mieux.
Alors,
beaucoup
mieux. Ouais,
Eldorado qui est avant.
Ouais.
C'est ça qui est drôle.
Bah ouais, après, ça dépend des productions. Là, après, ouais. L'histoire de Sinbad, elle est aussi intéressante avec, encore une fois, Katzenberg.
On reparlera un peu de tout ce qu'il y a autour du film, mais bon, on va pouvoir passer au coup de génie.
C'est brillant, brillant, brillant!
Je commence par le début parce que commencer par la fin c'est compliqué. Comme j'ai pas trouvé les trucs très intéressants, il y avait des bonnes scènes d'animation. En fait, je me suis rattrapé là-dessus. Et en fait, comme j'avais un très vague souvenir du film, quand tu arrivais dans la scène d'introduction, qui est mon coup de génie, je me suis dit. Ah putain, je vais passer un bon moment.
Ouais.
Parce que la scène d'action, les actions, elles sont super. L'anime, elle est cool. C'est super créatif.
Les caméras sont extrêmement bien gérées,
combats,
je trouve.
Mais même les chorégraphies de combat sont super bonnes. Le gars qui t'attrape une lame avec la bouche, bah, c'est pas possible. Mais
non.
Là, il me l'a vendu.
Ouais.
Et j'ai pas
mais
de problème avec
parce
ça.
Parce qu'il y a un côté cool.
Ouais. C'est genre juste, ouais, c'est bon, il peut arrêter un mec qui l'attaque avec un sabre, avec ses dents. Ouais, tu me l'as vendu. Et du coup, en fait, il y a vraiment ce côté cool. Et en termes d'introduction de personnage, en termes de show don't tell, j'ai trouvé ça très bien. Là où, des fois, il nous tell plus qu'il nous show.
Il n'y a pas de narration,
Ouais, il n'y a pas de narration.
Au début, il y a Eris qui fait un petit truc. Mais
ouais, et ça, et le début, Eris, en fait, c'est une déesse.
Oui.
Et en fait... Comme elle se fait chier, hein, littéralement.
Ouais, c'est vraiment ça le.
Elle
ne
peut
le
pas mourir vraiment. Elle est juste en mode, bah, tu sais quoi, je me fais chier. Je vais aller casser les couilles sur Terre à des mecs qui auraient demandé.
Je reparlerai de la mythologie plus tard, mais c'est vraiment c'est ce qui caractérise le personnage de la déesse Eris dans la mythologie grecque.
Ouais, c'est ça. C'est comme. C'est quoi le nom de l'endroit où elle habite, le Tartare?
Le Tartare. Ouais.
Moi, je suis désolé, ça me fait marrer. Pour moi, c'est dommage. Hein. J'avais oublié que c'était le truc de là. Ouais, c'est la
ouais, c'est l'enfer en fait. Ouais, c'est ça. En fait, c'est ça qui a inspiré l'enfer dans la mythologie chrétienne aussi. Dans
ouais, non, clairement, mais j'avais oublié que le nom Tartare,
ouais.
C'était le nom. C'est ma compagne qui me l'a rappelé, puis j'ai fait ah oui, mais c'est vrai que d'accord, effectivement. Mais donc voilà, donc scène d'intro, ça va être très radiophonique hein, comme extrait encore. Beaucoup de combats, mais des chorégraphies vraiment cool, une animation léchée, donc je pense que c'est un peu genre la séquence où ils avaient du temps et peut-être c'était le début de l'argent et qu'ils ont vraiment tout mis. Peut-être c'était le concept,
c'était le pilote, ouais,
pour
le
vendre
concept, ouais,
le film au studio. Et du coup, ben, quand j'ai vu ça, je me suis dit, putain, on va vraiment passer un bon moment. Puis en fait, plus ça avance et plus je fais. Et puis c'est vraiment très jeu vidéo en fait, maintenant que tu le vois.
Ouais, c'est genre,
ok, t'as passé.
En fait,
ils ont
fait un jeu vidéo.
Ah oui, d'accord.
À côté du film, pour faire la promotion du film.
Ouais, c'est ça. Et t'as passé cette étape, t'as un boss. Next boss et ainsi de suite.
C'est exactement ça.
Jusqu'au boss final.
Et ce qui fait que ça en fait, à mon sens, un bon film d'aventure en fait.
Ouais.
C'est pour ça que quand t'es gamin, c'est super cool parce que t'es là, il passe les étapes, il y a les différents monstres et tout. Et puis comme tu dis, les scènes d'action sont vraiment bien amenées et bien faites. Ce qui fait que pendant les scènes d'action, tu t'ennuies pas. Entre les deux, il y a beaucoup de dialogues un peu osef.
Ouais.
Et ce qui fait que c'est chiant à regarder la plupart du temps. Mais les scènes d'action, moi, je trouve vraiment font le sel dessus, mais sont quand même agréables.
Et on parlait tout à l'heure de l'arrivée dans le Tartare. Donc, à la fin, ils arrivent dans le royaume d'Eris. Donc, t'as tout un. Tu vois le bateau, ça dézoome, et tu vois le bateau au bord de la terre qui est plate,
ouais,
avec l'eau qui coule.
Oui, d'ailleurs, DreamWorks, platiste, au secours, quoi.
Platiste, ou avant-gardiste, ou Pirates des Caraïbes 3, leur
ouais,
a tout volé,
ouais, ouais,
parce que c'est sorti 7 ans avant.
Ouais, ouais.
Le final, là, quand ils arrivent dans l'autre monde. Mais bon, platiste, oui, à l'époque,
oui,
ils étaient platistes.
Bah, c'est le truc de mythologie.
Oui, voilà, c'est ouais, ça. Mais du coup, j'ai vu ça, j'ai fait, on dirait vraiment le truc de Pirates des Caraïbes 3.
C'est exactement ça.
Exactement. Et puis, après, quand je me suis renseigné, j'ai compris aussi plein d'autres trucs sur la sortie du film, dont on en parlera après. Mais du coup, voilà, mon extrait, c'est ça. C'est principalement des combats, de l'animation cool, des bonnes chorégraphies, des bonnes idées, des bons caractères design. Je trouve qu'aussi dans le film, tout le monde est beau.
Oui, alors, c'est
tout,
vrai.
Tout le monde est beau. À part l'espèce de personnage là. Alors lui, il m'a.
Le rat.
Ouais, le rat,
ouais,
là, il crie de ouf.
Excellent. Mais après, c'est le côté dessin DreamWorks aussi. Tu sais, comme le prince d'Égypte, tout le monde est beau dans le prince d'Égypte. Ils ont vraiment ce côté de faire des. Tu sais, c'est des statues grecques.
Mais non, mais attends, dans Eldorado, le conquistador, il est dégueulasse.
Mais non, mais il est flippant, mais il est beau.
Oui, il est beau.
Ouais, il est bien dessiné, tu veux. Il a du charisme.
Ouais, oui, je
c'est ça qui est cool. Bah, je comparais plus au prince d'Égypte pour les designs des personnages. Parce
oui,
qu'il y a vraiment ce côté, tu sais, avec le nez très droit, vraiment un trait pour le nez. Et c'est assez simple en termes de lignes,
ouais,
mais
ouais,
c'est très efficace.
Bah, c'est ça, ouais, tu pourrais mélanger les trois films ouais, dans les dessins. Et
tu crois que c'est le même univers?
Putain, c'est inverse. Bon, allez, on écoute.
Kale, à vos ordres. Bye. On va devenir riche! Allez, à
Qu'est-ce que tu dis de cette figure? Plutôt cool, hein?
Tu en fais toujours un peu trop. Juste un poil.
J'en fais trop?
Ouais, on se disait, les musiques sont vraiment. En réécoutant l'extrait.
C'est ce que j'ai dit, ouais, les musiques, elles déglinguent.
Ouais, y a pas c'est ouf. Et ça, vraiment, côté Pirates des Caraïbes, voilà, ils ont tout pompé.
Bah, après.
Mais c'est vrai qu'en même temps, on pourrait refaire un parallèle avec Pirates des Caraïbes, parce que le personnage principal, arrogant, charmeur, pirate.
Ouais, les gars, ils me piquent des
voilà,
idées. Mais c'est ce que j'allais en parler
okay,
après.
Bon, ben, voilà,
c'est ma reco, voilà, okay, elle est donnée.
C'est Pirates des Caraïbes.
Allez voir Pirates des Caraïbes parce que c'est bien mieux. Mais,
ouais, ouais, c'est clair.
Après, en termes de musique de pirate, je suis d'accord que c'est très proche de Pirates des Caraïbes.
Ouais.
Mais si tu regardes ce qu'ils ont fait pour Sea of Thieves,
ouais,
en fait, j'ai l'impression que le pirate évoque la même chose musicalement pour n'importe qui. En fait, t'as vraiment un truc
ouais,
de c'est grandiloquent, c'est des bateaux, c'est des machins, c'est sur l'eau, c'est des trompettes, c'est des violons, c'est vraiment des thèmes très forts. Sea of Thieves, les musiques, elles sont aussi incroyables, tu vois, et c'est vraiment un jeu de pirate et c'est une autre équipe qui a fait les musiques. Et donc, bah vas-y, c'est quoi ton coup de génie à toi là?
Alors moi, ça se passe à la fin du film, donc comme on a dit, on va pas résumer tout ce qui se passe entre les deux parce que vraiment, si vous avez vu le film, c'est
des étapes.
Ouais, c'est vraiment les étapes d'un voyage.
C'est quoi? Un, il tabasse des sirènes.
Marina tabasse des sirènes, les autres font rien.
Oui, parce que
avec
c'est
le chien.
Avec le chien. Ah, le chien. Ah, oh, quel enfer. Le chien qui bave là.
Non, mais alors, la bave qui gèle, pareil, effet incroyable. C'est oui. vraiment extrêmement bien fait.
Le chien qui bave, moi, ça me creep. Ah ouais, je déteste ça. Dans Rio, le chien qui arrête pas de baver.
J'aime bien, moi, c'est mignon.
Ah, ça me dégoûte.
Et qu'est-ce qu'il y a après? Il y a le poisson géant.
Le poisson géant, ouais.
Après, il y a l'oiseau. Ça, excellente séquence de l'oiseau, ouais. qui est basée d'ailleurs sur les contes originaux. Pour beaucoup, c'est la seule.
Oui, et d'ailleurs, l'oiseau, c'est la seule blague qui m'a fait rire. C'est quand il monte, là.
Ah oui.
Il fait, elle l'a pas vu, le piaf.
Il était très gros comme un truc. Très gros, ouais, incroyable. Ça la séquence de descente en luge, pareil, j'ai kiffé. Ouais. C'est vraiment, vraiment cool.
Mais pareil, encore une fois, c'est vraiment du loot de jeu vidéo. Genre,
ah oui,
tu perds ton épée, tu perds ta hache. Oh, ben comment on va pouvoir redescendre?
C'est un peu des petits kiffs d'animateur, tu sais. Tu fais, ouais. Ah putain, vas-y les gars, on a une séquence où il descend une montagne en luge poursuivi par un oiseau géant. Qui veut?
Oui, là, bah, oui. Qui veut? Mais il y a aussi, moi, ça m'énerve parce que ça fait. Ok, je viens avec une hache et une épée. J'ai perdu la hache, j'ai perdu l'épée. Oh, comment on va bien descendre de cette montagne?
Oui.
Est-ce qu'il y aurait pas un bouclier dessiné dans ton dos? Oh, comme de par hasard. Tu sais, je suis en mode, allez les gars, c'est quand même. Bon, après, c'est vraiment les trucs de. Oui, de jeux vidéo, parce qu'on en a
ouais,
plein. Mais j'imagine que oui, quand t'es enfant, tu fais, waouh, la trop bonne idée, le bouclier, c'est une dinguerie.
Oui, du coup, je vais parler de mon coup de génie à moi, qui vraiment, à la fin, qui est en fait le dénouement. D'accord, enfin la résolution du plan d'Eris. Donc tout le long du film, je me disais mais ça n'a aucun putain de sens. Pourquoi elle a pas volé le livre dès le début? Parce que on se dit son plan c'est de voler le livre. C'est ça qu'on nous fait croire au début. Parce que elle dit elle fait le marché avec Sinbad. Elle lui dit d'ailleurs c'est cool. Elle l'emmène dans l'eau. Il y a une bulle d'air qui se forme autour de lui. Pareil, ils se sont fait chier sur les effets, tu vois.
Ah ouais, non, il y a eu beaucoup de boulot.
Tu te demandes pourquoi elle a fait ça, parce qu'elle aurait pu voler le livre dès le début, tu sais. Elle a plein de pouvoirs, elle s'en bat les couilles. T'sais. Si c'est que le livre qu'elle voulait, elle allait sur le bateau, ou son monstre allait sur le bateau, et paf, elle prend le livre et ciao, quoi. Enfin, sauf que c'est pas ça qu'elle voulait, c'était pas du tout son but. Donc, son but à elle, c'est que Proteus meure. Ok ? Et on imagine que, comme c'est toujours le cas dans la mythologie, elle peut pas intervenir directement pour tuer un humain. C'est assez rare que les dieux fassent ça, ils passent toujours par des stratagèmes un peu chelous. Puis en plus, comme c'est la déesse du chaos, on a dit, elle aime bien manipuler les gens, s'amuser. Comme tu l'as dit dès le début, elle se fait chier. Et du coup, à la fin, elle explique en fait que... Enfin, c'est Sinbad qui se rend compte de son plan, qu'en fait, elle a fait tout ça pour que Sinbad porte le chapeau, qu'il se fasse arrêter, et elle savait que Proteus allait prendre sa place et être condamné à mort. Et elle pensait que Sinbad ne viendrait pas chercher le livre. Puis quand elle voit que Sinbad se met en route pour chercher le livre parce qu'il est payé par Marina au début, il le fait vraiment pour des raisons vénales, pour l'argent, c'est là qu'elle lui met les différents obstacles sur la route en essayant de l'empêcher. Et même quand il arrive enfin en Tartare, elle continue de jouer avec lui et elle ne lui laisse pas prendre le livre en lui proposant un dernier marché un peu tordu que je trouve très cool. En plus, la séquence du Tartare, visuellement, elle est super intéressante quand il y a ces espèces de dunes là, avec comme les des vagues, avec les statues qui sortent, les bateaux qui sortent. Vraiment, j'ai trouvé ça super cool. Le doublage d'Eris, l'animation d'Eris, on l'a dit, c'est un des trucs les plus brillants du film.
Ça m'a beaucoup fait penser à Hadès.
Mais oui, il y a ce côté Hadès aussi, mais elle est plus sournoise et tout. Enfin, vraiment, ils ont vraiment géré le concept de ce personnage-là. Et du coup, quand c'est arrivé à la fin du film, moi, je comprenais, j'étais là, mais en fait, il est complètement con, ce film. Et quand elle explique son plan, je suis là, ah putain, c'est vrai. Non, en fait, c'est vraiment intelligent ce qu'ils ont fait. Et effectivement, ça se résout très vite après où Sinbad revient à Syracuse finalement, et en fait il a pas menti, c'est ça tout le twist du film, c'est que non, il a pas menti, du coup elle est obligée de tenir sa promesse, elle lui rend le livre, terminé. Donc oui, là ça se finit vite et tu fais ok, est-ce que le film était censé être plus long, est-ce qu'il y avait plus de trucs à la fin, bref, on reparlera peut-être de ça après, mais j'ai trouvé ça vraiment cool.
Aussi, quand il revient à Syracuse, moi le commentaire que j'ai eu, c'est j'ai fait mais attends, parce qu'il avait 14 jours pour faire l'aller-retour,
ouais,
et quand t'arrives à Syracuse à la fin du film, t'as l'impression que ça fait 10 ans.
Ouais, mais il arrive pile poil.
Non, mais ça fait l'impression que ça fait 10 ans qu'il n'y a plus personne qui s'occupe d'entretenir
ouais,
les murs.
Clair. Non, mais ça, c'est parce qu'ils ont fermé le livre.
Ouais, mais
ça,
j'étais là, j'ai fait franchement, les gars, t'as 14 jours, ça fait pas ça. Il y a ça, le côté où Proteus va effectivement et à deux doigts de se faire trancher la tête.
Ouais.
Alors qu'il y a son père, alors qu'il y a tout un truc genre.
Mais son père, d'ailleurs, il y a une scène comme ça. Ils ont mis un petit truc où son père essaie de le faire évader et Proteus.
Ouais, je sais pas,
étant
pas.
Noble prince de cœur et machin. Mais ça, non, si, le personnage de Proteus est constant sur ce côté-là.
Ouais, mais j'achète pas le côté genre casse-toi en fait. Genre, tu peux te barrer de.
Oui, mais il veut pas. Là, il le dit lui-même. Il dit non, j'ai confiance en Sinbad, il va ramener le livre et je vais faire comme la loi et tout, machin. Non, Proteus, par contre, il est chiant, mais il est honnête.
Ouais, je comprends pourquoi Marina, voilà. Elle est partie avec Sinbad.
C'est ce que j'ai noté à la fin. Je fais le gars s'est fait friendzone ou il a rencontré quelqu'un en prison. On sait pas. Un des deux. Parce qu'à la fin, il lâche l'affaire assez vite. Hein. Comme Marina lui fait « Non, mais tu sais. » Il fait « Non, mais t'inquiète, vas-y, va avec l'autre. Moi, je m'en fous. »
Ah ouais, ouais, c'est vrai que c'est ça aussi. Il y a plein de trucs qui sont rushés comme ça.
Ouais, bah la romance entre Simban et Marina est pas incroyable. Franchement, c'est juste les deux doubleurs en fait fonctionnent bien ensemble.
Oui.
Donc, on y croit un peu. Il y a une petite alchimie au niveau des voix et tout, mais les dialogues sont pas fous.
Ouais, il y a d'autres trucs qui m'ont perdu, c'est que ils ont fait un mélange artistique gréco-arabe. Simbad, ça vient des Mille et Une Nuits.
Ouais.
Mais ça se passe à Syracuse, en Sicile. Ouais, ouais. Mais les gars.
Mais ils ont gréquifié le truc, hein, parce qu'Eris, c'est une déesse grecque.
Et voilà. Et
Proteus aussi, son nom si vient d'un demi-dieu grec.
Ils prennent Monica Bellucci pour faire une. Et j'étais là, je fais, on comprend plus rien. Est-ce que ça. Pour DreamWorks, la Méditerranée, c'était
ils ont pris,
un Gloubi Boulgade
Bruel, il est né en Tunisie, c'est peut-être ça, ou en Algérie, je crois. Là. C'est ça, la caution.
Je fais, c'est quoi le truc? Je comprends plus ce qu'ils
veulent
dire.
Non, non, après,
en fait.
Par contre, ils ont. Mais ça a été une des grosses critiques du film aussi à l'époque, c'est qu'ils ont complètement effacé le côté conte des Mille et Nuits, le côté culture arabe, il est inexistant en fait dans ce film.
Ouais, ouais.
Mais tu sais, il y a déjà eu des adaptations, il y a déjà eu une adaptation notamment fameuse, parce qu'elle est nulle à chier, de Simbad en film live action, qui date de 62. Et d'ailleurs, elle est tellement nulle que l'acteur principal a essayé de faire croire qu'il n'avait pas joué dedans. Alors qu'il est dedans, hein, on voit sa tête et tout, mais il a maintenu que c'était pas lui.
C'est la télévision artificielle.
Ouais.
Voilà, moi, quand j'ai voulu choper Simbad pour le regarder, je suis d'abord tombé sur la version, je dirais, Wish de l'animation, adaptée en animation 2D, mais vraiment... Le conte des Mille et Une Nuits adapté, animé.
Il y a un vieux film d'animation,
avec
oui.
un budget de 10 euros, quoi.
Ouais. Et alors, tu l'as vu ou...
J'ai sauté dedans, j'ai fait c'est pas ça.
Ouais, ok. Ah, je serais curieux de le voir, du coup.
Ouais, ouais, bah voilà. Okay. Je peux te dire comment le trouver facilement.
Parfait, superbe.
Voilà, okay. Allez, on écoute.
Ouais, vas-y.
Vous, les humains, vous êtes tellement prévisibles. Proteus ne pouvait pas s'empêcher d'être généreux. Et toi, tu ne pouvais pas t'empêcher de le trahir.
Oui, mais voilà, je ne l'ai pas trahi. Je ne me suis pas enfui.
Pourtant, tu l'as trahi, petit homme. Tu lui as volé son seul amour. Regarde-la, Sinbad. Oh ! Il n'est pas encore dans sa tombe. Et tu fais déjà des avances à sa fiancée. Reconnais-le. Ton cœur est aussi noir que le mien.
On va faire un listing de toutes les adaptations de Sinbad. Aïe, 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 aïe.
Après, il y a aussi ce truc-là que j'ai bien aimé, par contre, à la fin, effectivement, sur le twist, où elle lui demande de ne pas mentir.
Ouais.
Et lui, il s'explique, quoi. Mais c'est encore une fois, tu sais, je suis en mode... Il fait une connerie, puis après, il explique à la caméra pourquoi il a fait la connerie. On a compris que, fondamentalement, tu voulais pas y aller, que tu voulais te barrer au Fidji... Que t'es resté grâce à Marina et que t'as voulu jouer le mec honnête.
Oui, donc, sauf qu'il l'est pas.
Sauf que tu l'es pas.
Jusqu'à la fin, il l'est pas.
Jusqu'à la fin. Et là, tu nous dis, ah, en fait, j'ai menti. Oui, mais on n'avait pas
à
besoin.
À la fin, c'est le seul moment où il assume, en fait, et où il se dit, en fait, là, il faut que je.
Ouais, ouais, clairement. Mais c'est juste, tu fais, bon, les gars, bon, des fois, il n'y a pas besoin d'expliquer les choses, quoi.
Je suis d'accord avec toi. Mais encore une fois, comme on l'a dit, les dialogues sont assez mal écrits. Mais je pense qu'il y a une passe de production qui a été faite derrière pour clarifier tout ça.
Ouais.
Parce que. Pour des raisons de DreamWorks était dans la merde à ce moment-là et ils se sont encore plus mis dans la merde. Enfin bref, on va en reparler.
Oui,
dans la potion magique tout de suite.
Alors, gros Nébulix, c'est quoi que tu nous prépares là, copain?
Alors, je vais commencer avant de vous parler de plein de choses autour du film. On va faire un petit quiz. Quiz sur Simbad, la mythologie, etc.
Alors, attendez-vous à ce que je réponde à aucune question.
Parfait.
Je suis nul.
Ah, superbe. Alors.
Ah, t'es nul.
Mais moi,
incroyable.
J'ai les réponses, donc.
Ok, vas-y, alors, vas-y, je vais donner mon meilleur.
Pardon.
Pour les auditeurs.
Alors, première question, d'où vient le personnage de Simbad? Ça, tu sais.
Le conte des Mille et Une Nuits.
Exactement. Donc, il y a plusieurs versions. Le conte des Mille et Une Nuits. Donc, Simbad vient des contes des Mille et Une Nuits, effectivement, des nuits numéro 69 à 90, et raconte les aventures d'un marin de Bagdad. Donc, dans le film, on a vu qu'il était grec. Donc, il y a 7 contes pour 7 voyages, d'accord?
Ah, c'est là
c'est
que
pour
ça vient
les sept
mers.
Voilà, ce qui n'a rien à voir. Voilà. Mais c'est quand même dire que dans les 7 contes, il se balade à 7 endroits différents, d'où les 7 mers. On peut aussi noter qu'il y a une version différente, une interprétation différente, où ce ne serait pas dans les Mille et Une Nuits, mais ce serait un conte qui vient de Bagdad, justement, et qui serait inspiré d'un personnage réel, un marchand. Deuxième question. En quoi le personnage du film diffère-t-il du personnage original? Alors, réponse A. Il est riche dans le conte d'origine. Réponse B. Ses voyages se terminent toujours mal dans le conte d'origine. Ou réponse C. Il n'est pas un pirate dans le conte d'origine.
Réponse
ça peut être
D. Obi-Wan Kenobi. Réponse B.
Ok. Ça peut être plusieurs réponses.
Ah, ça peut être plusieurs réponses. Les trois réponses.
Les trois, c'est exactement voilà. Ça. Dans le conte d'origine, il est riche. Donc, quand il raconte l'histoire de comment il a rencontré Proteus dans le film et qu'il dit qu'il était à la fenêtre de son palais, c'est l'inverse. Dans le conte d'origine, c'est un pauvre homme qui s'assied en bas du palais de Sinbad, qui était un riche marchand, pas pirate, et qui se plaint de ses misères à Allah le Tout-Puissant. Sinbad l'entend, descend. Comme Proteus dans le film, sauf que là, ils se battent. Mais là, il descend et il commence à lui raconter son histoire. Et c'est comme ça que les contes démarrent. Et effectivement, ces voyages se terminent toujours, toujours, toujours mal. Et
comment tu accumules de la richesse si tes voyages se terminent mal ? À quel moment tu ramènes
non,
le trésor ?
Au début. Alors en fait, voilà, je vais t'expliquer comment ça se passe. Quand il commence à raconter son histoire au truc, il est riche. Enfin, au début, il est riche et en fait, il dit qu'il s'ennuyait avec sa richesse parce qu'il a hérité de sa richesse. Et du coup, c'est pour ça qu'il part prendre la mer en aventure. Et il finit par être riche. Mais juste à la fin des sept contes, en fait, parce qu'il décide d'arrêter les conneries. Un petit florilège de ce qui se passe dans ses voyages. Il est abandonné par son équipage. Son équipage, un autre équipage, hein, parce qu'il y a plusieurs équipages. Il en perd à chaque conte. Il est dévoré par des monstres ou des cannibales, ça dépend. Il se fait enterrer vivant. Il est obligé de tuer une femme qui est enterrée vivante avec lui pour lui voler ses vivres. Un vieillard essaye de l'étrangler avec ses jambes. Ses compagnons meurent de faim. Il se fait attaquer par un cyclope. Ça vous rappelle quelque chose ?
Mon voilà. Dieu.
Et donc, oui, il est marchand et il se sort surtout, pas comme dans le film, en fait, il sort plutôt des situations par la ruse plutôt que par des prouesses physiques et de combat comme on voit dans le film. Ce qui aurait été beaucoup plus chiant, on va dire, en film. Mais en général, oui, il se sort. Il est un peu comme. Il rappelle beaucoup le personnage d'Ulysse, en fait.
Ah, ouais, clairement.
Ouais, ouais, il y a beaucoup de ça. Donc voilà. Et à la fin, effectivement, il se décide, par contre, 6 minutes avec le film, il veut se poser à la fin. Et donc, il décide de poser, mais pas au Fidji. Il se pose à Bagdad avec femme et enfant.
Après, il y a une autre truc que tu n'as pas dit dans les trois propositions.
Oui.
Sa couleur de peau. Non, parce que, excuse-moi, ils sont vachement tous blancs.
Ah oui, alors oui, il y a beaucoup de whitewashing dans le film. Je crois qu'il n'y a que le personnage de Kay, donc qui est doublé par Mark Alfos, qui est un peu noir. Ouais. Ici, il y a les deux jumeaux asiatiques.
Et le gars, le saint, le rat, là, qui a un accent italien.
Oui, on ne sait pas pourquoi d'ailleurs. Mmh. Ok. Bah, c'est. italien ou mexicain, ça dépend des moments, tu sais.
Puis des fois, il fait des phrases en italien, tu fais d'accord.
C'est ça. Bon, troisième question. Eris, donc la déesse grecque du chaos, qui est dans le film, et donc qui est grecque, est à l'origine de quel conflit ?
La guerre de Troie ?
Exactement.
Okay.
C'est la guerre de Troie. Alors, je vais vous expliquer. Eris, c'est la déesse grecque du chaos. Donc, et en fait, il y a eu un mariage, qui est un mariage de Péléus, qui était un mortel, et de la déesse Thétis. Et elle n'a pas été invitée au mariage, contrairement à beaucoup d'autres déesses, notamment Athéna, Aphrodite, etc. Eris, pas conne, au lieu de s'offusquer et de faire de la merde, non, elle a créé la pomme d'Eris et elle a dit que c'était un cadeau pour la plus belle des plus belles. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Aphrodite, Héra et Athéna se la disputent, parce qu'elles pensent toutes être la plus belle des belles, ce qui était le but d'Eris à la base, ce qui crée une énorme rivalité qui va durer plusieurs années, voire plusieurs siècles, et qui éventuellement mènera aux événements de la guerre de Troie.
Ah ouais, ok, d'accord.
Et enfin, dernière question, ce mariage donc, et où Eris n'a pas été invité, quel autre film d'animation est-ce qu'il a inspiré ?
Cendrillon ?
Non, La Belle au Bois Dormant.
Ah, je ne l'ai pas vu.
C'est vrai ?
Ouais.
Ah, mais écoute, je te le conseille parce que c'est la meilleure méchante.
Tout le monde me l'a conseillé, mais c'est un des rares que j'ai pas vu.
Il est très vieux jeu, voilà. Mais au début, donc, Maléfique n'est pas invité, là où les trois autres fées sont invitées, mais Maléfique étant mal vue. Et du coup, elle s'invite à la naissance de la princesse Aurore et c'est là qu'elle l'a maudit.
Ok, ouais.
Voilà.
J'avais pas les...
Et oui. Et donc, voilà, ça c'est vraiment l'inspiration que Disney a pris, en tout cas... C'est une des interprétations, ils l'ont jamais confirmé, mais c'est quand même assez clair. Et voilà pour moi.
Ben moi, je vais vous parler un petit peu de autour du film. Bon, j'ai pas trouvé un milliard d'informations, c'était un peu compliqué. À la base, je voulais vraiment me renseigner sur la méthode qu'ils ont utilisée pour intégrer la 3D à la 2D. Mmh. Parce que c'était un truc qui était vraiment à la mode à l'époque, qu'ils avaient fait dans Eldorado et tout. Mais j'ai pas trouvé de making-of là-dessus, ou de gens qui en parlent. En fait, les making-of que j'ai trouvé, c'est juste sur Brad Pitt et Catherine Zeta-Jones qui font « Ah, ce film est incroyable, let's go, allez voir le film, j'ai fait une voix dedans, c'est super !» Et tu fais ouais, « Ok, d'accord, mais bon, c'est vraiment basé sur... » La promo était sur le fait que Brad Pitt et Catherine Zeta-Jones étaient les voix. Sur l'histoire du film, Sinbad, est-ce que tu sais c'est quoi, à la base, le projet ?
Oui, il voulait faire 6 films ou 7 films, un truc comme ça.
À la base, il y avait ça, mais à la toute base, il devait être fait à Disney.
Ah ouais ?
Katzenberg l'a proposé.
Ah d'accord.
Et on lui a dit non.
Ah, bah, comme le prince d'Égypte, quoi. En fait, il a jamais rien pu faire que ce qu'il voulait à Disney.
Non. Ouais.
Ok. Du coup, il a bien fait de se barrer, finalement.
Oui, bien sûr. Du coup, il est parti le faire à DreamWorks. Et est-ce que... Parce que le film a été... moi, je ne l'ai pas apprécié parce que l'histoire et tout ça. Mais il a aussi été un échec commercial. Est-ce que tu sais pourquoi, au-delà du fait que les gens ne sont pas allés le voir?
Non.
Ok. Le film, il est sorti le 2 juillet 2003. Ok. Un mois avant, il y avait le monde de Nemo.
Ah putain, c'est ça. Mais oui, j'ai vu dans un article d'un journaliste de l'époque qui parlait de Nemo. Ouais.
Une semaine après la sortie du film, alors c'est pas pour le même public, mais il y avait Terminator 3 et Hulk.
Ouais.
Et un mois après, Pirates des Caraïbes 1.
C'est vrai?
Si c'est pas le plus mauvais placement de sortie de film de l'histoire.
C'est si vieux que ça, Pirates des Caraïbes?
Ouais. Le tout premier, ouais.
Ah, wow.
Quand j'ai découvert ça, j'ai fait, en fait, je pense qu'ils savaient très bien que ça allait pas marcher.
Ouais.
Et ils l'ont juste balancé parce qu'il fallait qu'ils s'en débarrassent.
Ouais.
Mais normalement, tu sais, je veux dire, nous, on travaille dans le film, dans l'industrie, et on voit que des fois, ils font de la rétention du film ouais. pour qu'ils sortent à un moment propice où il n'y aura pas de gros trucs en face potentiellement.
Ouais, mais ça, c'est relativement récent. Parce que rappelle-toi, quand on avait parlé de Fourmis, par exemple, ils faisaient plus l'inverse à l'époque. Ils rushaient les trucs pour les sortir plus tôt.
Oui, c'est vrai. Mais en tout cas, là, je veux dire, je veux bien que tu ne sois pas au courant à l'époque de ce qui allait sortir à gauche, à droite, mais enfin...
Ils étaient quand même censés être au courant.
Oui,
je
voilà, je veux dire...
C'est une petite industrie, tout le
C'est ça,
sait,
Nemo, hein. Tu savais, Pirates des Caraïbes, c'est Disney. Enfin, ouais. Je veux dire, donc tu avais deux trucs qui allaient sortir. Enfin, donc c'est normal que le truc soit complètement passé à la trappe. Est-ce que tu sais combien il a fait perdre à DreamWorks?
J'ai vu 125 millions en tout.
125 millions de dollars.
Mais je crois que c'est pas que ce film, c'est genre une série de plusieurs choses. Mais
bah,
ouais.
Celui-là a vraiment fait ouais. perdre 125 millions de dollars. Ça reste un des films les moins rentables de toute l'histoire du cinéma.
Aïe, 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 aïe.
Et il a mis DreamWorks sur la quasi-faillite. Ouais. Donc en fait, déjà
c'est
là.
C'est pas là où ils sont fait racheter une première fois.
Ouais.
Ouais.
Déjà là, DreamWorks a pué du cul. Et avec toutes ces histoires, parce que DreamWorks, c'est beaucoup d'histoires de licenciements massifs à travers les années, où d'un coup, on fait 3 films, puis ça cartonne. Ouais. Et puis d'un coup, on va faire 5 films, et rien ne va prendre. Et puis d'un coup, on va te ressortir, je sais pas, les dragons, puis d'un coup, on va revenir avec les Madagascar. Mais entre temps, on va te sortir Turbo. Quoique Turbo, bah, il a fait 225 millions, lui, alors j'ai pas compris. Je fais bon, ok, d'accord.
Un escargot qui fait la course, oui.
Oui, bah, j'achète, évidemment. Mais, non, mais du coup, ouais, c'est un peu les trucs que je voulais raconter qui sont vraiment autour du film parce que j'ai pas trouvé beaucoup plus d'informations. Et puis, ouais, les musiques, donc on en parlait. C'est le gars qui a fait les musiques de Narnia, de Prince d'Égypte, du Roi Lion et de Shrek.
Bah, ça devait être Hans Zimmer, mais finalement, est-ce que c'est pas plus mal que ce soit
Bah, non, parce que les musiques, elles sont incroyables.
Ouais, elles sont formidables. C'est un des meilleurs trucs du film, oui.
Du coup, ouais, c'est un peu les points qu'il y avait autour. Et quand j'ai vu ça, j'ai fait ok, donc le film, moi, je l'ai pas apprécié et je pense que je suis pas le seul. J'ai vu des gens en ligne, j'ai un peu regardé, qui ont adoré le film et qui en parlent avec beaucoup de ferveur, que c'est leur meilleur film d'enfance, ouais. Un très bon souvenir. Et je comprends tout à fait. Mais en même temps, méthodiquement, le sortir à ces moments-là de la chronologie des sorties de films, surtout que Nemo, enfin, je veux dire, moi, je sais pourquoi je n'ai pas vu Simbad. Hein. J'étais dans Nemo, la salle pour ouais. Nemo, et Nemo, je l'ai poncé.
Mais moi, j'ai vu les deux, mais je pense que j'en ai vu aucun au cinéma.
Ah, Nemo, je l'ai poncé.
Je les ai vus en DVD, tu sais.
Ah, ouais, ouais. Mais non, moi, à cette époque-là, c'était Nemo, il n'y avait que ça. Et je,
bah oui, mais c'est incroyable.
Je connaissais les dialogues par cœur. C'était. Mais donc ouais, Simbad complètement passé à côté et a raison. Bah, après, il y a eu Pirates des Caraïbes. Pff, bah, ok, let's go, embarquez-moi.
Ouais.
Et
bah, ça a été le gros truc, la grosse sortie.
Et Pirates des Caraïbes, en plus, personne ne s'y attendait à ça parce que c'est basé sur une attraction Disney World. Donc tout le monde se disait, bon ok, ça va pas être fou. Puis finalement, quand c'est mis dans les mains d'un bon réalisateur à qui on laisse faire les choses, ça roule quoi. Mais ouais, du coup, c'est ça un peu les conditions de production aussi de Simbad et de ce qui s'est passé, quoi.
Mais c'est aussi, on n'a pas dit, le dernier film en 2D de DreamWorks. Et c'est un des derniers films, si ce n'est pas le dernier, en animation traditionnelle, fait aux États-Unis par une compagnie américaine, réalisateur américain.
Bah non, la princesse et la grenouille, c'est en 2009.
Ah oui, non, t'as raison. Mais est-ce que c'est full réalisateur américain? J'avais vu un truc comme ça où c'était la production qui était full américaine, mais je suis pas sûr. Ah, t'as raison, la princesse à la grenouille 2009, donc ouais, non.
Bah c'est ça, parce qu'après, de toute façon, ils ont vu que Shrek, ça fonctionnait. Je crois qu'ils étaient déjà partis sur Shrek 2.
Ouais, ouais.
Et puis après, ils ont enchaîné avec les Madagascar, les Kung Fu Panda, les dragons.
Ouais. Mais ce qui fait qu'ils ont fait moins de budget sur Simbad et qu'ils ont pas fait les 6 films comme ils voulaient le faire à la base, c'est l'échec de Eldorado, hein. Eldorado, on l'avait dit, ça n'a pas bien marché.
Non plus.
Donc, et Katzenberg l'a dit, tout, après l'échec de Sinbad, il a dit, je pense que les films en 2D, c'est terminé, quoi. Il a dit, je pense que raconter des vieilles histoires traditionnelles, des contes avec de l'anime 2D, c'est un truc du passé. Je pense qu'il s'est un peu foiré là-dessus, mais...
Bah, ça dépend comment c'est amené.
Oui, c'est ça. Je pense qu'il est... fallait juste dire ton film, il n'est pas si ouf, en fait.
Ouais, clairement, mais il y a aussi maintenant un mélange des deux.
Exactement.
Il y a... bah, c'est ce qu'on disait là sur Tempête. Hein. C'est... Je pense que ça va être la prochaine vague. Hein. On a eu la 3D vers la 3D extrêmement réaliste. Mm-hmm. Spider-Verse est arrivé. Ils ont montré qu'il y avait un truc solide qui pouvait être fait. Et maintenant, on a beaucoup d'animations en blocking, en step, et de mélange de 2D-3D d'une certaine manière. Pas forcément que du Spider-Verse, les tortues, c'est encore différent, Intergalactic, c'est encore différent, et ainsi de suite. Et donc, c'est toujours là, en fait. Maintenant, oui, c'est clair que est-ce que si la mise en scène était pas aussi, avait été mieux pensée ou quoi, je pense que le film aurait fonctionné, quoi.
Je suis d'accord. Est-ce qu'on a autre chose à ajouter sur ce film ?
Non, je pense qu'on peut passer au reco.
Passons à la conclusion.
Dans l'introduction de la conclusion.
Je vais faire une reco de merde vraiment facile.
Ok, ouais. C'est quoi ta reco de merde vraiment facile ?
Bah toi c'est Pirates des Caraïbes, on a bien compris, c'est ça ?
Ah moi j'ai rien dit encore.
Ok, bah moi c'est Sea of Thieves, je vois Sea of Thieves, c'est excellent.
Ah ouais,
voilà, surtout
vraiment ?
Surtout maintenant, ils ont fait des nouveaux trucs et tout, on y rejoue un peu.
Bah surtout depuis que on est au courant de l'histoire de Glitterbeard.
Exactement.
Qui est très émouvant.
Bah oui, c'est ça qu'on peut recommander aussi, aller regarder l'histoire du pirate Glitterbeard.
Donc c'est une vidéo YouTube
ouais.
Qui s'appelle Le pirate qui n'est jamais revenu.
Ouais.
Et ça parle d'un des employés de Rare, donc qui a travaillé sur Sea of Thieves, qui est décédé durant la pandémie.
Ouais, malheureusement.
On ne sait pas trop quoi. Et en fait, en honneur à son travail, à la personne qu'il était, l'équipe de Rare a fait toute une enquête, toute une énigme dans le jeu pour aller trouver un lieu de recueillement dans
ouais,
le jeu caché.
Comme un sanctuaire. Ouais.
Qui est activable que d'une certaine manière.
C'est ça.
Et ça te met les poils et ça te fait chialer.
Bah, la vidéo est incroyable.
La vidéo est incroyable. Et oui, bon, voilà, moi je l'ai dit, Marocco, c'est Pirates des Caraïbes, les gars, hein, le 1, le 2, le 3. Ouais. Le 4, le 5, on l'oublie,
le
s'il vous plaît.
Le 6, c'est pas un 6 déjà ?
Je veux pas le savoir.
D'accord, ok.
Je suis
ouais,
pas
non,
au courant de ça.
Franchement, je suis d'accord, les 3 premiers sont quand même exceptionnels.
Les 3 premiers, par Gore Verbinski, la patte du maître, vraiment très bien gérée. D'ailleurs, Gore Verbinski, il a fait 5 films dans sa vie.
Ouais.
Rango.
Banger, quoi. À
et à chaque fois, c'est ultra, ultra quali.
Qu'est-ce qu'il a fait d'autre ?
Ah si, après, il a fait Lone Ranger, pas fou. C'est un Pirates des Caraïbes chez les Cowboys.
Mais c'était Disney, ça, aussi.
Ouais. Mais bon, les Pirates des Caraïbes, bah, je les recommande, mais bon, vous les avez vus, pas besoin de... Voilà. À chaque fois que on
revoyez.
Est dedans, revoyez.
Revoyez Pirates des Caraïbes.
C'est l'équivalent de se refaire l'intégrale du Seigneur des Anneaux.
Le jeu vidéo du 3, du film du 3, est incroyable, vraiment. Mais c'est un vieux, hein. Il était sur PlayStation 2, je crois, à l'époque.
Ah bah, le 3 est sorti en quelle année ?
2006. Bah, quand tu avais la PlayStation 2, donc oui. Probablement. Mais le jeu est excellent. La prochaine fois, on vous parle de Interdit aux chiens et aux Italiens, tout petit film. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, à vous abonner. Pour ne pas les rater, les suivants, que ce soit sur YouTube, sur Spotify, vous pouvez mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, un pouce en l'air sur la vidéo, etc. etc. Merci de nous avoir écoutés. Et n'oubliez pas, allez voir des films d'animation.
Et donc là, on met Patrick Bruel ?
Ouais.
Là, on met le truc de Je t'aime ?
Ouais.
Ah.
Bah ouais, on est obligé.
Je t'aime. Je sais bien que je l'ai trop dit, mais je le dis quand même. Je t'aime.